Tous responsables de la planète, tous éco-citoyens. Avec Fréquence Terre, Gilles Soulac.
Tchernobyl, déni passé, menace future. Évidemment, Fukushima est passé par ici. Alors nous sommes avec un journaliste qui a travaillé sur la question. Il est d'origine belge, Marc Molitor, écrivain et auteur de ce livre. Donc Tchernobyl, déni passé, menace future. Alors on a bien compris le déni de quelque chose qui a été une réalité mais qu'on a voulu cacher et d'un futur qui est à notre porte aujourd'hui, précisément Marc Molitor.
Oui, je mets déni passé, ça, comme vous l'avez dit. Menace future, c'est parce que tous les enseignements n'ont pas encore été tirés de Tchernobyl et que l'ensemble des résultats de cette catastrophe n'ont pas été reconnus quelque part et cette reconnaissance pourrait servir dans le futur à éviter d'autres problèmes.
Alors on s'en est rendu compte aussi pour Fukushima. Des demi-vérités, voire même des mensonges, des lobbies, des conflits d'intérêts, c'est tout cela, Tchernobyl ?
Oui, le nucléaire a toujours été historiquement marqué par ça, hein, pour des raisons bien précises qu'on connaît, l'après-guerre, le rôle des grandes puissances, la liaison entre le développement pacifique de l'énergie nucléaire et son origine militaire, c'est vraiment un cadre global qui s'est mis en place, qui a été marqué par la nécessité du progrès atomique, enfin toute cette foi dans le progrès atomique, et qu'il ne fallait pas compromettre par des réticences trop liées à des problèmes de santé publique. Ce qui fait que ce n'est qu'à contre-temps et avec beaucoup de réticences que les organismes internationaux chargés, je dirais, des critères et des recommandations en matière de radioprotection ont admis progressivement avec le temps qu'il pouvait y avoir des problèmes et ont progressivement baissé les normes. Mais ça a mis beaucoup de temps et c'était chaque fois le fruit de luttes de francs-tireurs qui au début ont souvent été méprisés, calomniés et puis après dont on a reconnu quand même qu'ils avaient raison. Mais ça a mis chaque fois du temps.
Ça peut aller plus vite avec Fukushima. Très rapidement, on arrête le nucléaire au Japon. 54 centrales qui s'arrêtent du jour au lendemain, c'est quand même juste énorme. Mais pour revenir, Marc Molitor, à ce livre, votre enquête, votre travail vous a appris quoi ? Et nous permet, nous, en tant que lecteurs, pour ceux qui vont aller lire ce livre, donc Tchernobyl, déni passé, menace future, nous apprennent quoi ?
Alors ça m'a appris que, d'abord, le bilan de Tchernobyl est probablement beaucoup plus important que ce qu'en disent les organisations internationales.
C'est-à-dire ?
Pas seulement en termes de mortalité, parce que là, souvent, il y a une confusion, mais en termes de morbidité, c'est-à-dire en termes de maladie, de pathologie. Je prends un exemple, les fameux cancers de la thyroïde dont on parle, et que pratiquement plus personne ne nie, mais il a fallu même du temps pour les reconnaître, qui sont entre 10 et 20 000 cas à peu près aujourd'hui. Il y en a très peu qui sont décédés, mais il y en a beaucoup qui en souffrent. C'est le cas pour d'autres types de pathologies. Moi, d'après l'ensemble de l'enquête que j'ai pu faire, je pense que avéré à travers des études épidémiologiques. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a à peu près entre 200 à 300 000 personnes qui seraient déjà décédées suite à Tchernobyl.
C'est loin de ces chiffres de l'OMS, 40-50 personnes.
C'est très loin. Et il y a des raisons multiples à cela. C'est tout le problème de la preuve en science. Et ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin. Il y a différents mécanismes par lesquels les institutions internationales chargées du nucléaire écartent une série d'études qui sont plutôt gênantes ou embêtantes et qui montrent que les dégâts sont plus importants que prévu, ou alors utilisent des mécanismes de preuve dure en science, c'est-à-dire prouver que tel cancer est lié à Tchernobyl. C'est très difficile à prouver.
Ce sont ces études épidémiologiques impossibles à prouver, effectivement, parce que polyfactorielles.
C'est-à-dire, par l'épidémiologie, on voit mieux. En disant, si vous avez vécu dans la région et que vous êtes atteint d'un cancer, allez-vous en prouver que ce cancer lié à Tchernobyl. Ça peut être, comme vous dites, le tabac, l'alcool, ceci, cela. Ils ne se privent pas pour le dire d'ailleurs. Mais lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on compare des populations qui ont été plus contaminées avec des populations qui l'ont été moins et qu'on voit l'évolution de leur état de santé, alors apparaît quand même de façon un peu plus claire des problèmes dans ces premières populations.
Alors on a l'impression, nous, bien souvent, en tant que spectateurs, téléspectateurs ou auditeurs de toutes ces choses, bien souvent au travers des médias, qu'on est un petit peu pris dans un mensonge collectif à cause de ces conflits d'intérêts. C'est un peu le sentiment que vous avez eu à la fin de votre livre, de vous dire, bon, quand même, ça va un peu au-delà de la limite.
Oui, il n'y a pas que le mensonge, il y a aussi... Il y a plusieurs grades. Hein. C'est vrai qu'il y a des mensonges délibérés. Il y a des façons aussi d'orienter les agendas. Vous savez, quand les organisations sociales, vous savez ce que c'est, maîtriser une réunion, hein, l'agenda d'une réunion, l'ordre du jour d'une réunion, donner la parole à un tel et pas à un tel, orienter le financement des études dans telle voie plutôt que dans telle autre. Le problème de ce qu'on appelle les peer reviews, c'est-à-dire les revues scientifiques qui acceptent ou qui refusent certains articles. Le problème de la traduction des articles du russe vers l'anglais. Il y a un ensemble de moyens pour laisser dans l'ombre une série d'études qui feraient problème par rapport à ces résultats, vous voyez. Et s'il y a des moyens forts, le moyen fort, c'était mettre Bandajevski en prison en Bélarus. Il y a des moyens soft. Le moyen soft, c'est pas payer tel labo, c'est payer plutôt un autre, c'est sélectionner telle personne pour une conférence internationale et pas d'autres, des choses comme ça.
Mais ça n'existe plus, Marc Molitor, rassurez-nous, c'est terminé ?
Non, mais ça continue. Vous avez entendu Michel Fernet qui a parlé de la façon dont se passait à l'intérieur une réunion à l'OMS, à l'AIEA ou ailleurs. C'est fréquent. Ce sont des mécanismes qui existent dans tous les domaines de la science. Mais ici, c'est particulièrement fort.
Fréquence Terre.
Vous pouvez retrouver cette émission et bien d'autres thématiques sur le site internet de Fréquence Terre à l'adresse suivante www.fréquenceterre.com. Je répète, www.fréquenceterre.com.